Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
C'est quand même bizarre, effectivement, qu'un auteur signé dans une grande maison comme ça, où on s'imagine qu'il habite au boulevard Saint-Germain, quoi. En gros, les gens ne réalisent pas à quel point les auteurs sont précarisés.
Vous êtes-vous déjà demandé si les écrivains considérés comme à succès, ceux-là même que l'on entend sur France Culture ou qui passent à la grande librairie, gagnaient vraiment leur vie? C'est à ce sujet que s'attaque Franck Courtès dans son dernier ouvrage, À pied d'œuvre. Il y observe en détail sa longue descente, palier après palier, dans une misère qui n'a rien de relatif. Pourtant, dans sa vie précédente, ce photographe gagnait beaucoup d'argent. En décidant de faire de l'écriture son métier, il n'a pas divisé ses revenus par 2, mais par 20 ou 30. Après Adrien Bels, ce quinquagénaire est le second écrivain que l'on reçoit dans notre podcast. Il explore avec nous la schizophrénie de ce métier qui le comble, mais ne le fait pas manger. Et comme pour écrire, il faut bien être vivant, Franck Courtès a dû faire des choix. Bienvenue dans le monde merveilleux de la précarité, avec du style. Bonne écoute. Bonjour Franck Courtès. J'ai lu ton livre qui est paru chez Gallimard, je l'ai adoré. Pour notre podcast, c'est un cadeau, c'est-à-dire que ton livre ne parle que d'argent, que de déclassement, que du monde invisible des petites mains. C'est assez rare les écrivains qui parlent d'argent.
On m'a dit que c'était même presque unique parce que ils n'ont pas retrouvé de traces de livres qui en parlaient déjà avant moi, quoi. Alors peut-être tu en as, toi,
ouais, moi j'en ai un. J'ai Lionel Shriver, qui est cette américaine que j'adore, qui a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Propriété privée, qui ne parle que de ça.
Ah bon, okay,
qui est vachement bien. Alors on va parler de toi, d'où tu viens. T'es un nouveau pauvre, mais t'es aussi un ancien riche.
Voilà.
Donc où est-ce que tu as grandi? Dans quel milieu, toi?
Dans un milieu petit bourgeois, classe moyenne. Mon père était cadre à la CAF. Et ma mère ne travaillait pas et on habitait dans le 5e arrondissement, dans une cité HLM, mais un peu chic, enfin pas chic, mais c'est pas du tout l'image qu'on a des cités HLM aujourd'hui, quoi. Dans le 5e, vers le Jardin des Plantes.
Oui, déjà dans le 5e, ça pose un décor. Même si vous n'étiez pas riche, tu dis, c'est petit bourgeois.
Voilà, on avait accès au cinéma de quartier, aux librairies, à la beauté du quartier.
Tu voulais être riche plus tard, tu t'en fichais
Ah, pas du tout, oui. C'est un truc qui m'a jamais intéressé. Déjà, quand j'avais 18 ans, je travaillais le petit job d'été, comme tout le monde, quoi, dans une entreprise. Et il y avait une voyante qui était à la photocopieuse et qui m'avait vu arriver, qui m'avait dit « Fais voir, donne-moi ta main ». Et elle m'a pris ma main et elle m'a dit « Toi, tu auras du succès, mais jamais d'argent ».
Ah.
Et ça m'a traumatisé.
T'es en train d'appliquer la prophétie?
Voilà, ouais. En train de se réaliser.
Alors toi, Franck, t'étais pas très bon à l'école, hein, et la première fois que tu deviens bon à quelque chose, c'est à la photo, c'est ça?
Exactement, ouais. Après avoir essayé, depuis que j'avais peut-être 10 ou 12 ans, j'ai tout essayé. J'ai commencé par écrire, je trouvais pas ça très très bon, mais j'ai fait un petit recueil de nouvelles quand même à cette époque. Puis après j'ai essayé le dessin et la musique, et j'étais nul en tout. Et très tard, vers à mon retour du Mexique, parce que je suis parti au Mexique après la mort de mon père, habiter chez ma sœur. Là-bas, j'avais rencontré un photographe que je trouvais formidable. Et j'adorais cette vie comme ça, légère, avec un appareil photo en bandoulière et se balader à travers le monde, quoi. Donc j'ai voulu devenir photographe. Et j'ai fait une école pendant 2 ans. Et à la fin de l'école, le gars en question que j'aimais beaucoup avait monté la revue Les Inrecuptibles. Mmh. Donc il m'a dit est-ce que tu veux essayer de piger quoi, et en fait ça a marché tout de suite et ça a été vu. Il y a eu Libé et à partir de Libé, Libération, ça a été une vitrine et la carrière s'est lancée hyper vite. J'ai eu tout de suite un relatif succès.
C'est l'âge d'or d'une presse qui se revendique comme étant à la fois intelligente et avant-gardiste.
Oui, audacieuse, oui. Ouais.
Les Inrocs, à ce moment-là, tout le monde lit Les Inrocs. Enfin, en tout cas, tous les passionnés de musique lisent Les Inrocs.
Ouais. Ouais. Alors moi, je ne me rendais pas compte. Hein. J'ai appris il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans la bouche d'un ancien ami là, qui a témoigné de notre amitié et qui disait « Oui, Franck avait cette aura du photographe des Inrecuptibles, cette aura branchée. » Et là, honnêtement, je tombe des nues, parce que pour moi, c'était vraiment... lui, c'était Arthur H. en partie, en l'occurrence. C'était lui qui était complètement branché. C'est lui qui m'emmenait dans les bars, pas possible. Moi, pas du tout, quoi. On fantasme beaucoup sur le photographe rock des Inrocs. Moi, je passais pratiquement tous mes week-ends à la campagne, mais j'avais pas de réseau d'amis... plus branché que ça, quoi. On était, m'arrivait de me faire refouler au palace. Enfin, voilà, j'étais pas du tout ce qu'on imagine, quoi. Non, non. Oui, oui, j'ai gagné très bien ma vie. Je me souviens qu'en 98 et 99, quand il s'est agi pour moi de trouver un appartement, il fallait que je justifie de mes revenus. J'avais déclaré 8000 euros par mois, quoi. Oui. Pendant cette période, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de cet argent, quoi? J'ai pas le souvenir d'avoir vécu extraordinairement mieux. Mais j'ai tout dépensé.
T'as tout dépensé?
Ouais.
Tu t'es pas dit, tiens, je vais acheter un appart?
Non, quoi. Non, j'ai dépensé au fur et à mesure. Je pense que j'achetais des fringues. Je faisais pas attention, quoi.
T'étais dans le look, toi, hein?
Ouais, j'aime bien les fringues, ouais. Mais bon, là j'en suis privé pour le moment. Heureusement que j'ai gardé des vieux trucs un peu jolis, quoi.
Travail, il consiste en quoi? Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était globalement des portraits pour des mags et puis des projets plus rémunérateurs qui vont être des photos pour des maisons de disques.
Ouais,
c'est ça?
Ouais. Ouais. Et puis un peu d'institutionnel parfois aussi. Donc, ça allait de faire les ambiances aux Jeux Olympiques en 92 pour les Jeux Olympiques d'hiver. Un cinéaste ou un chanteur américain à Los Angeles. Je faisais un peu tout, en fait.
Tu côtoies en permanence des riches et célèbres.
Oui.
C'est quoi ton regard sur eux?
C'était pas un milieu social qui m'impressionnait ou que je recherchais. C'était vraiment faire une belle photo de quelqu'un. C'est aussi ce qui m'a épuisé. Parce que quand je me suis rendu compte que comment je photographiais avec autant de tendresse que une tendresse un peu imméritée, le patron des ciments Lafarge, par exemple, le patron de Total. Vraiment, en toute innocence, j'y allais et je cherchais un peu dans les yeux l'enfance ou le petit décalage, à la Libé, en fait. Sauf que j'avais un peu dérivé vers, on me faisait photographier de plus en plus des gens très riches, des footballeurs célèbres. Et l'environnement m'a jamais excité. J'ai jamais raconté ça dans mes photos. C'était vraiment l'humain, quoi, le portrait psychologique. J'aimais bien montrer les faiblesses, montrer le sérieux des comiques, essayer d'aller à l'encontre de la photo qu'on attendait d'une rencontre presse-promo. À partir des années 2000, il a commencé à y avoir une pression pour que on arrête de faire du décalage psychologique ou rigolo. Il y a eu un contrôle de l'image, des deals qui ont été passés avec les attachés de presse, les agents. Et très souvent, il y avait des coups de fil. On veut voir les images avant le service photo. On veut pouvoir sélectionner ce genre de choses. Et ça a tué petit à petit l'importance du photographe. C'est-à-dire qu'en fait, on devenait de plus en plus un presse-bouton et il fallait faire joli. Et mettre en valeur, parce que de toute façon, à la fin, c'était pour vendre quelque chose. Ça a érodé ma passion. Moi, j'avais la réputation d'être plutôt très courtois, très poli, de me déchausser, mais de capter les lumières, les angles, et puis de raconter quelque chose avec la personne dans ce décor. Et en fait, au bout d'un moment, on nous le demande plus.
Ouais.
On n'est pas récompensé pour ça. Sur les planches contact, quand on montrait les planches contact, toutes les photos les plus intelligentes étaient éliminées au profit d'une photo qui était beaucoup plus accrocheuse, vendeuse. Bon, tout ça m'a enlevé la flamme. Alors j'ai continué, hein, malgré tout, parce que c'était quand même bien payé. Donc c'est quand j'ai commencé vraiment à avoir de moins en moins de commandes, quand le numérique a pris toute la place et que j'avais plus le droit d'utiliser mes vieux Rolleiflex, mes vieux appareils qu'on bidouillait, qu'on bricolait, justement pour faire le décalage. Et tout ça s'est épuisé, on nous a fait comprendre qu'il fallait arrêter. Donc,
C'est la fin d'un monde.
Ouais.
C'est la fin d'un style aussi, un petit peu. C'est la fin du style.
C'est la fin d'une rencontre, surtout entre les artistes, on peut dire, enfin, des gens qui cherchent quelque chose, qui sont en recherche de quelque chose pour faire avancer la création, et d'un médium populaire qui est la presse, et ce lien entre les artistes, la presse et le public, c'était magique. Et là, on coupe les ponts. On prend plus que des, enfin, plus que non, mais, je trouve qu'il y a moins de créativité, qu'on demande aux photographes de refaire un peu toujours la même chose. S'ils ont un style, on l'exploite à fond. C'est lassant.
Dans ton livre, tu parles du 3000e portrait de star, de ta lassitude, et je cite, de ton œil devenu stupide.
Oui.
Il est devenu stupide.
Il s'est épaissi à force de... L'angle s'est rétréci par le fait que simplement tout ce que j'aimais faire était dévalorisé. Alors une stupidité aussi liée au fait de la répétition. C'est pas en train de dire que c'est que la photo qui a baissé de niveau, c'est moi aussi. Hein. En vieillissant, j'ai pas réussi à me renouveler. Je pense que le contexte était pas favorable non plus au renouvellement, bien sûr. S'il était resté des gens comme il y avait les premiers de Libé ou de Nova ou tous ces gens-là, j'aurais été poussé à me sortir et à réinventer quelque chose parce qu'on se réinvente quand même toujours un peu, on cherche, on trouve, on s'influence les uns les autres. Là, c'était comme une chape de plomb qui nous tombait dessus. On voyait la dépression des rédacteurs chefs, les journalistes étaient quasiment, enfin, très mal payés. Et quand on partait en reportage, il y avait un certain cynisme qui était arrivé, je trouve, chez les journalistes. Et je travaillais de plus en plus avec des gens qui étaient un peu écœurés eux-mêmes, qui faisaient le service minimum, quoi. Donc tout ça, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'on me dit « t'as abandonné la photo ». Non, j'aurais continué, je pense, s'il y avait eu des gens magnifiques encore, enfin passionnés comme je l'étais, quoi. Je sais pas d'où venait... cette plaie de l'extinction de la passion, mais peut-être des annonceurs qui nous demandaient de faire des trucs, mais non, pas trop cher, pas trop de temps, et puis les plus efficaces possibles. Et c'est pas comme ça qu'on avance, quoi.
La crise de la presse aussi, qui a donné énormément de pouvoir aux annonceurs. C'est la porte ouverte aux pressions de toutes parts, et notamment ouais. Des financiers, et donc un certain lissage comme ça ouais. Des contenus pour arriver à satisfaire des panels de consommateurs. On gomme un peu les aspérités.
À la fin, je travaillais aussi pour un magazine sportif. J'arrive devant un footballeur et en fait, on me dit au dernier moment, alors, ce qui est important, c'est qu'on voit le logo. On lui met un survêtement avec le logo, je sais plus quelle marque. Et en fait, c'était le sponsor, c'était la marque qui avait organisé le rendez-vous. On vous accorde un interview presse, soi-disant d'information, à condition qu'on puisse placer notre logo. Et c'est nous qui prévenons le footballeur, sinon vous l'aurez pas, parce que c'est nous qui décidons.
Oui, c'est des pratiques courantes aujourd'hui, ça.
Ben ouais, mais moi, à l'époque...
Voire systématique.
Mais c'est affreux, quoi, affreux. Donc ouais, je suis parti petit à petit.
Tu racontes aussi ces quelques fois où tu n'es pas payé en tant que photographe. Et alors, j'aime beaucoup cette anecdote où il y a un patron de presse ou rédac chef, tu vas le voir après je sais pas combien de mails, tu vas le voir dans son bureau, et il te dit très franchement, écoute, non, on va pas te payer, parce qu'en fait... on n'a pas les moyens, voilà. Et puis, surtout, on sait que tu ne nous attaqueras pas, parce que ça va te coûter plus cher en frais d'avocat que ta pige à 100 ou 500 balles. Donc, restons-en là, quoi.
C'est pour ça qu'ils faisaient travailler des photographes indépendants et pas des agences, parce que les agences ont des services d'avocats, ils peuvent les emmerder, quoi. Et donc, ces gens-là, oui, ne payaient pas ce qu'ils appelaient les petits photographes. Et les petits photographes, c'est terrible, mais enfin, bref. Et oui, non, ce magazine-là ne payait pas, mais il avait au moins le courage de me le dire en face, de m'expliquer le principe. Chose que les autres, parce qu'il y en a eu d'autres, n'ont jamais fait. On m'a toujours dit oui, la facture est au service.
Compta.
Compta, mais ça n'a pas été signé. Et puis ça peut durer un an, deux ans. Moi, je pigeais pour une vingtaine de titres, donc j'ai pas le temps de vérifier tout et de m'attacher à récupérer 240 euros. C'est absurde, mais en fait, ça use le moral. Évidemment, ça me mettait pas dans le rouge, hein. Mais j'ai encore plein de dettes. Enfin, si je récupérais aujourd'hui les photos qui m'ont été commandées et pas payées, je serais très heureux. Je partirais en vacances, quoi.
En quelle année tu décides de sauter à l'eau, d'arrêter la photographie pour devenir écrivain ?
J'avais commencé à écrire en 2011 et j'avais eu tout de suite un éditeur qui avait dit oui pour la publication. Et le temps que le livre sorte, j'ai continué à recevoir des commandes photos que j'avais plus envie de faire, évidemment, et qui se passaient de plus en plus mal. Donc en 2013, j'ai vraiment arrêté complètement. Mais je gagnais quasiment plus rien de toute façon. Ouais, depuis un an, quoi. Donc
décider d'arrêter, donc à 49 ans, c'est quand même un saut dans le vide énorme. Tu lâches un statut social fort,
ouais.
Tu lâches un statut financier bon qui est en train de dégringoler un petit peu, mais quand même,
ouais,
c'est ton socle, hein, voilà, tu peux vivre. T'as un appart à payer, t'as 140 mètres carrés, c'est
ouais.
ça. T'es au courant de ce que ça rapporte, le métier d'écrivain. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu dis comment je vais payer le loyer? Comment ça se passe tout ça? Parce que
le saut dans le vide, il continue. Hein. Quand j'étais photographe, depuis le début, l'argent arrivait sur mon compte en banque d'une manière dématérialisée. Évidemment, c'était des virements. Et moi, je tirais du cash quand j'en avais besoin et je vérifiais pas. Et donc, j'ai pris ce pli pendant 26 ans de ne pas faire attention. Et ben, dans l'élan de cette insouciance, je me suis dit non, mais écrire, c'est comme photographier. C'est la même chose pour moi. C'était, en plus, artistiquement, pour moi, c'était vraiment retrouver la flamme du début, d'apprentissage, de recherche, du plaisir de faire de l'art. Ce plaisir-là, je le retrouvais avec la littérature et la question financière ne s'est pas posée. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que ça marcherait, que ça serait juste pareil. Peut-être pas autant financièrement, mais ça m'était égal, quoi. Mais je pensais pas que vraiment je pourrais pas en vivre, quoi. Je pensais qu'il y aurait toujours un truc qui me sauverait, je sais pas, des ventes suffisantes. Je savais pas qu'on vendait en moyenne 350 exemplaires d'un livre en France. Je savais pas tout ça.
Alors tu écris justement, et j'aime beaucoup cette phrase, achever un texte ne veut pas dire être publié ne veut pas dire être lu ne veut pas dire être aimé ne veut pas dire avoir du succès, et avoir du succès n'augure aucune fortune. Et ça tu le découvres.
Ben, je le découvre. Ouais.
Personne ne t'avait mis en garde, t'es quand même du sérail, tu viens d'un milieu où il y a des photographes, des journalistes, donc des écrivains.
Non, si, la seule qui m'a mis en garde, c'est mon éditrice qui m'a dit n'arrête pas la photo. Mais c'était trop tard, j'étais déjà en train d'arrêter, je pouvais pas, je l'ai pas écouté. Je pouvais pas l'écouter, je pouvais pas entendre ça. De toute façon, aucun conseil n'a jamais eu de prise sur...
Non. Il y a une naïveté un peu adolescente là-dedans.
Je pense qu'il y a une naïveté de toute façon chez tous les gens qui font des métiers de passion et des métiers... Ouais, des métiers de passion, on va pas dire que artistique parce qu'il faut une forme de naïveté, ouais.
Néanmoins, tu sors un premier livre, Autorisation de pratiquer la course à pied, qui a du succès.
Mmh.
Un bon succès, d'estime en tout cas.
D'estime, voilà.
Ouais. Bon, c'est 5000 ventes ?
5000 ventes, à peu près.
Ça veut dire quoi ? Tu passes à la grande librairie, tu as du média, t'es visible, ça te rapporte combien ?
D'abord, la valoir, qui était de 4000 euros brut, donc pour 2 ans de travail.
Un avaloir, c'est une avance.
C'est une avance.
Voilà, c'est le minimum que tu puisses toucher.
Oui.
Et si jamais tu vends beaucoup plus...
À partir de cette somme, on commence à gagner de l'argent. Mais pendant tout le temps, on ne gagne rien jusqu'à ce qu'on ait remboursé la valoir, en fait. C'est ce que je suis en train de faire avec mon dernier livre. Et le deuxième livre s'est vendu moins, je crois aux alentours de 3000. Donc là, il m'avait donné un avaloir supérieur de 7000 euros. Le troisième livre s'est vendu encore moins, donc il y avait une descente. Alors même que j'avais des gens qui me disaient que je progressais, quoi. C'est ça aussi le paradoxe. Si on m'avait dit clairement, OK, tu baisses, fais gaffe, peut-être que j'aurais réagi, j'aurais tout arrêté. Mais j'avais des encouragements de spécialistes, de journalistes, quoi. Donc, très difficile d'arrêter. Et là, je sors la dernière photo, qui a un succès, on va dire, dans le milieu. Donc, on a l'impression que ça marche. Mais en réalité, les ventes sont autour de, pareil, 3000. Je crois que ça décolle jamais de 3000, quoi. Et puis, c'est là que j'ai écrit un recueil de nouvelles et on m'a dit non, non, pas des nouvelles.
Hein, ça se vend pas.
Ça se vend pas, c'est horrible. Et je l'ai fait quand même. Et en fait, le recueil de nouvelles a eu un. Là, on est à 3000, ça fait un an et demi, on est à 3000 à peu près, exemplaires vendus. Ce qui fait dire à certains éditeurs, quand je les rencontre sur les salons, ah, mais vous avez eu du succès avec votre dernier recueil de nouvelles. Donc, je sais, voilà, moi, pour moi, c'est pas un succès parce que ça m'a rapporté, mais enfin, rien. C'est 1,50€ par exemplaire avec un avaloir qui était de 4 000 €. Donc, j'ai gagné 4 500 €.
En tout.
Ouais, en tout. Voilà. Ouais. Ouais. Sur 2 ans de travail. Donc, ouais, ça fait 2 200 par an. Vous divisez par 12, ça vous fait
Donc, tout l'enjeu, hein, c'est pas de devenir écrivain, c'est de rester écrivain.
Oui.
Comment on fait pour rester écrivain?
Ben, il y a deux enjeux. C'est d'abord le moral. Comment on continue d'y croire? Alors là, les lecteurs, les journalistes sont hyper importants. Les proches aussi. Mais les proches, faut s'en méfier parce que de toute façon, les gens aiment bien avoir un copain écrivain et ils le flattent toujours. Un artiste en général, quoi. Ils disent toujours, ah, c'est super. Bon. Faut s'en méfier un peu.
C'est ton pote écrivain que tu ramènes dans les dîners.
Oui, voilà, ouais. C'est ça. Oui. Ça, moralement, il faut vraiment les journalistes. Comme ça, on se sent légitime un peu. Et financièrement, c'est-à-dire toucher le public quand même, quoi. Et soit on se fait descendre dans les médias, moquer comme Musso ou Lévy en permanence. Mais on s'en fout parce que de toute façon, on vend des millions. Donc, on sait qu'on a une gratification ailleurs qui compte autant. Moi, c'est un entre-deux. C'est-à-dire, j'ai quand même une gratification par le milieu, surtout depuis le dernier livre. Le public, pour l'instant, ça rame un peu. La semaine dernière, on était à 2600 ventes, alors que j'ai fait, je crois qu'on n'est pas loin de 30 médias là maintenant.
Mais ça sert à rien de faire de la promo aujourd'hui.
Je sais pas. Là-dedans, il y a une chronique d'Olivia Lamberturi sur à Télématin. Il y a des trucs, c'est pas que de la presse, quoi. Il y a des médias un peu plus populaires, quoi. Mais on me dit que c'est formidable. C'est un démarrage formidable. Bon,
ouais.
2600.
Ouais.
Ok. Moi, je sais pas. Comme j'ai eu un fort avaloir là de Gallimard de 10 000 € brut.
Dû à ton succès d'estime précédent.
Voilà. Mm-hmm. Dû au fait aussi qu'ils le sortent à la rentrée littéraire et que traditionnellement, à la rentrée, on vend plus de livres qu'à d'autres moments parce qu'il y a les gens s'intéressent plus à la littérature à ce moment-là. Donc, il y a plus de chances d'en vendre. Maintenant, il faut que je le rembourse. Ce qui veut dire qu'il faut que j'en vende minimum 6 000, je crois.
À quel moment tu te dis, bon, là, il faut sérieusement réduire la voilure, je vais lâcher mon appart, et puis je vais dépenser moins. Comment ça se passe, cette prise de conscience? Elle est brutale ou progressive?
Plutôt progressive, puisque dès le début, j'ai vu que je gagnais plus du tout d'argent. Alors, j'ai vécu sur mes économies, heureusement. J'ai tenu jusqu'en 14-15 à peu près. Et à partir de là, j'avais pas le réflexe de demander des aides de l'État, des choses comme ça. Moi, je me sentais pas avoir rejoint les nouveaux pauvres. J'étais juste toujours le même mec riche, mais sans argent, quoi. C'était de ma faute. Donc, j'acceptais, je réduisais tout. Et là, j'ai commencé donc à plus pouvoir payer. Je me suis mis dans le rouge. Sur le compte en banque, et là, alors là, ça a été la dégringolade, ça va extrêmement vite. J'ai perdu 13 kilos parce que je mangeais très peu. Je chauffais presque plus l'hiver que écrire. La fuite en avant, redoubler de travail pour essayer de... C'était pas pour gagner de l'argent, je me dépêchais d'écrire les projets que j'avais en tête avant que j'en sois lassé, que je puisse plus physiquement, quoi. Et là, ça me fait très souvent ça quand j'ai un livre en cours qui me plaît. Je fais très attention à pas mourir. Donc, c'était en 2015 à peu près, ouais. Je me dépêchais d'écrire le prochain livre avant d'être obligé d'être stoppé par la misère, quoi, tout simplement.
La misère, pourtant, elle arrive vite, hein, elle est quand même là. Ce que tu écris, tu dis « ça n'est pas la misère, mais je commence à en avoir une vue bien dégagée ». À ce moment-là, tu gagnes 250 à 300 euros par mois, qui sont des droits d'auteur de tes anciennes photos qui tombent. Comment tu vis avec ça?
Ah bah, très mal, je te dis, je mangeais des sardines, des pois chiches.
T'es dans un studio au sous-sol, prêté par ta mère, en sous-sol,
en rez-de-chaussée.
T'es dans un studio au rez-de-chaussée, prêté par ta mère. Mmh. C'est quand même extrêmement radical et moi, c'est ce que j'ai ressenti tout au long du livre, c'est d'admirer d'un côté cette détermination. Où ce qu'on ressent, c'est que t'as pas le choix, en fait, ce que tu veux écrire et puis c'est ta seule ligne de fuite. Et en même temps, à un moment, on a envie que tu prennes soin de toi, on a envie que tu t'achètes à que tu te fasses des bons repas, on a envie que tu prennes un bain chaud, quoi. Mais tu vas pas dans cette direction et tu n'y vas tellement pas que tu vas quelque part presque chercher alors tu vas me dire ce que t'en penses, hein, c'est mon interprétation, mais les petits boulots les plus ingrats, c'est-à-dire que tu vas même pas dans une boîte d'intérim, tu vas sur un site de mise en relation de main-d'œuvre, en fait. Donc, c'est du particulier à particulier. C'est un site qui est assez connu. D'ailleurs, tu le cites pas, hein, mais je crois que j'ai repéré lequel c'était. Et tu loues tes bras. Tu montes des meubles. Tu débroussailles des mauvaises herbes pour des tarifs qui, très clairement, sont souvent en dessous du SMIC horaire.
Ah oui, oui, très
en dessous.
Ouais. Bah, en fait, au début, j'ai quand même cherché un espèce d'emploi à mi-temps. Donc, le cheminement moral, hein, de se dire, bon, ok, j'étais photographe, j'avais une vie bourgeoise, agréable, et de se dire, bon, maintenant, je vais être gardien de parking, mais il y a un basculement qui est difficile à faire dans sa tête. Mais en fait, ça a été la faim et le froid qui ont fait que, bon, j'ai été poussé par ça. À un moment, j'ai arrêté de me poser des questions, de me dire que j'allais vers le déclassement total. Et j'ai cherché des petits boulots, serveur, gardien de parking, tout ça. Et en fait, c'était impossible. J'ai même été chez Decathlon. Je voulais faire le vendeur. On m'a dit que j'étais trop vieux. Ça a failli, mais ça marchait pas. J'ai voulu devenir vigile. C'était ridicule. Je cherchais n'importe quel boulot pour avoir de l'argent et continuer d'écrire.
Est-ce que tu présentes trop bien?
Ah, peut-être, oui, ce côté un peu chic, oui. Ben, c'est-à-dire, je ressemble trop aux gens que je prétends servir. Et ça pose un problème. Il y a un malaise quand j'arrive chez un client en général, quoi.
C'est vrai qu'il y a un malaise. Tu ressembles pas à un manœuvre, tu ressembles pas à un homme à tout faire, tu parles bien, t'es bien habillé. T'as plutôt une tête d'intellectuel, en fait.
Voilà, ouais. Ouais. Oui, c'est sûr que pour descendre les gravats des chambres de bonne, quand il y a des travaux et que les employeurs, les sociétés préfèrent embaucher des sans-papiers ou des gens comme moi à 40 euros la journée, j'ai l'air un peu décalé. Ouais. Surtout la première fois, parce que j'avais même pas de vêtements adaptés, donc j'avais mis un t-shirt en croyant que ça ferait...
Ouvrier.
Passe-partout, ouvrier. Ouais. En fait, le t-shirt, il était un peu classe, quoi. Le jean était parfaitement coupé. Ça allait pas du tout, quoi. Mais j'ai fait mon travail à fond et j'ai gagné ma place, quoi. J'ai jamais démérité. Enfin, j'ai jamais été en dessous de. J'ai jamais fait moins que les autres manœuvres. Sauf que moi, je me suis abîmé, quoi, parce que j'ai pas les gestes, j'ai pas l'endurance, je sais pas m'arrêter. Et je me suis vraiment fait mal, j'ai encore mal là. J'ai dû faire ça 4 ans. 4 ans, et ça a suffi pour me foutre en l'air le corps, quoi. Mais ce que j'aimais aussi, c'est pour ça que je suis allé, c'était que ce genre de plateforme, ça offre une impression de liberté. Et je voulais pas avoir de patron, je voulais pas être engagé, je voulais pas avoir de contrat, d'horaire, évidemment. Enfin, une fois que j'ai découvert, de toute façon, que je pourrais pas avoir de place de gardien de parking, par exemple, qui aurait été assez parfait, à mon avis, mais tous les autres boulots, tout à coup, je me disais, mais de toute façon, j'écris de plus en plus. Toutes mes matinées sont consacrées à l'écriture. Les après-midi, je me documente, je lis, c'est aussi du travail. Bon, je peux l'interrompre et aller faire des missions. Mais justement, ce genre de plateforme de petits boulots, ça venait pas foutre en l'air complètement la régularité, la routine de l'écriture. Cette gymnastique qui fait qu'on n'a pas besoin de plan et qu'on continue un roman, on l'a toujours en tête, parce que jour après jour, on y retourne, mais on l'a en tête en permanence. On rumine tout le temps, tout le temps. Et ces petits boulots, ça me permettait de faire ce travail essentiel qu'est la littérature sans que ça pollue trop au niveau de l'emploi du temps.
Ouais, tout l'enjeu, c'est de la préservation de ton énergie, en fait.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Donc, nourrir un peu l'écrivain, quand même. Je demandais pas grand-chose.
Nourrir le corps de l'écrivain.
Voilà, nourrir le corps de l'écrivain et protéger les projets en cours. Alors, ça paraît dérisoire quand on voit les ventes derrière, bien sûr. Mais bon, pour moi, c'est essentiel.
Alors, tout au long du livre, tu racontes tes mésaventures. C'est souvent drôle, hein, parce que... Bah, tu tombes dans des traquenards, tu te retrouves à monter des meubles, bon, toujours pareil, hein, toujours trop bien habillé, il y a toujours cet effet de décalage. Et puis, en fait, t'es pas hyper bon à ça au début, t'achètes une perceuse, et puis le client voit que tu sors la notice et que tu sais pas vraiment t'en servir. Donc, tu te sens tout le temps comme un imposteur, en plus. Tu te retrouves sur des missions que t'as acceptées et en fait, au lieu de durer 2 heures, ça en dure 5. Tu repars, t'as des ampoules, tu dois aller chez le médecin. Tout ce que t'as gagné, tu le redépenses aussitôt en frais de soins, quoi. Donc, c'est en même temps comique, un peu triste, douloureux. Et puis, tu nous ouvres une fenêtre aussi sur un monde, sur le monde de ces petites mains, ces ouvriers complètement invisibles, qu'on voit peu. Qu'est-ce que tu as découvert, en fait?
Ce que j'ai découvert, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tout ça est parfaitement accepté. Cette misère, ces migrants qu'on met sur des vélos. À un moment, j'étais un peu coursier aussi. Et c'était pendant le Covid. Et on était rue de Rivoli, dans les couloirs de vélos. Et on était avec plusieurs jeunes Africains. Alors, je dis Africains parce qu'on les reconnaît... complètement, c'est pas du tout la personne black française. C'est des petits signaux comme ça. On sait très bien que le mec, il y a une façon de se tenir, d'être sur le vélo aussi. Ils ont peur, ils ont pas de papier. Donc, nous, quand on est à vélo et qu'il y a un piéton qui traverse n'importe comment, on gueule, à la parisienne, quoi. Il y a un truc, on est digne, on défend quelque chose, on défend notre place. Et là, il y a une espèce ils courbent la tête, ils essaient d'être de ne laisser aucune trace de leur passage, qu'on les voit pas. Ils essaient de se rendre encore plus invisibles pour pas qu'on les embête, justement. Et en fait, on les embête pas tant que ça parce que ils existent pas, quoi, pour les autorités. Ils sont là, on les exploite. Parce que les pauvres gars, après avoir fait plus de 100 kilomètres à livrer des sushis et des pizzas, il faut qu'ils aillent dormir en banlieue, parce que vous pensez bien qu'ils dorment pas à Paris, quoi. Donc, ils rejoignent des endroits un peu en banlieue, on sait pas trop où, chez des cousins. Donc, ils se retapent 20 bornes. Ça, c'est éreintant. C'est un mépris total. C'est-à-dire que on a presque envie qu'ils se fassent arrêter par la police pour qu'on les considère un peu, pour que leur cas soit étudié, pour que quelqu'un arrive derrière en disant « Oui, mais mettez-vous... » Enfin, je sais pas, défendre un peu leur dignité. Non, mais là, ils ont plus rien, on les arrête même plus, ils existent pas, c'est des meubles. Et puis aussi, quand je vais à la déchetterie jeter des gravats, je me retrouve sous un pont en béton à attendre mon tour pour pouvoir décharger mes gravats. Alors là, j'étais pas en bon état, je m'étais fait très très mal. J'avais descendu du sixième étage des kilos et des kilos de sacs et des baignoires et tout ça. Et il y avait plus miséreux, plus dur que moi. Il y avait une queue d'homme qui piétinait comme ça dans le froid en attendant que un camion passe et les embauche pour la journée à des tarifs, mais je vous raconte même pas. Quand il y a quelqu'un qui arrive, un employeur, tout le monde lève la main pour être pris et ça m'a évoqué cette image de toutes ces mains blanches qui sortent de leur poche, quoi. Ça faisait comme des oiseaux qui s'envolent, quoi. Et ils piétinent là. Alors ils pissent sur place parce que si on s'éloigne pour aller pisser, on perd sa place et tout ça. Alors moi, je vois ça et je me dis bon bah même dans l'impression que j'ai d'être au plus bas du plus bas, je suis pas encore au plus bas. Il y a des gens encore plus miséreux. Et je me dis mais c'est pas possible que les pouvoirs publics, les ministres en charge de ces problèmes-là ne trouvent pas de solution. Alors oui, c'est possible qu'il n'y ait pas de solution. Et surtout, je pense que c'est possible que tout ça soit intégré dans une logique de perte et de profit. Sauf là, on parle de pertes humaines, quoi, de gens. Et c'est autour de chez nous. Hein, je crois qu'on est 10 millions de nouveaux pauvres.
Ce qui est surprenant, c'est que dans ton cas, c'est quelque part, t'as encore le choix. Tu pourras encore faire demi-tour, toi, et retourner à la photo ou faire des métiers un peu plus intellectuels. Tu crois pas ?
Un psychiatre ou un psychologue te dirait que non, j'ai pas le choix. C'est ça ou la mort, hein, vraiment. Ça peut paraître un peu romantique et ridicule, mais je peux pas, quoi. Je pourrais entrer en dépression et aller très très mal si je devais reprendre un travail comme la photo ou entrer dans un bureau et faire un travail devant un ordinateur. En plus, avec le niveau que j'ai d'études, ça serait un truc qui serait pas très drôle. Non, c'est pas possible. En plus, ça serait malhonnête parce que je sens quand même. Je peux pas mentir, mais je sens que j'ai une. C'est très dur à dire, mais que je peux faire des livres chouettes, quoi. Ça serait irraisonnable d'abandonner ça. Ça serait irresponsable.
Si tu reprenais un boulot dans un bureau ou un travail où tu auras un patron, ce que tu sens, enfin, j'essaye de traduire, hein, tu me dis si je me trompe, c'est que ça appauvrirait toute cette énergie, cette structure, la mentale que tu as mise en place et que du coup, ça t'empêcherait d'écrire. C'est ça la logique.
Après, tout dépend.
Parce qu'on ne parle pas de temps, on parle de l'énergie.
Oui.
Ouais.
Oui, oui. Tout dépend de l'ambition. Hein. J'ai beaucoup d'écrivains qui travaillent par ailleurs. Hein. C'est très bien. J'aurais adoré avoir d'abord un travail de prof ou de journaliste et puis me mettre à écrire et puis voilà faire un livre de temps en temps et faire une carrière les deux carrières ensemble. J'aurais adoré. J'ai pas eu le choix. J'ai pas d'autres métiers. Ça dépend aussi de l'ambition qu'on a. Je pense que si je donne pas les 100%, je vais m'ennuyer. Je peux pas le faire d'une manière dilettante.
Et quand tu travailles, quand tu fais tous ces boulots de main-d'œuvre, tu ne donnes pour le coup pas d'énergie mentale, tu ne donnes que de l'énergie physique.
Exactement.
Mais tu sacrifies ton corps.
Oui.
Et ça n'atteint pas ton mental, en fait.
Non.
Ouais. Il y a une idée d'un peu de rester vierge, en fait, de rester pure et
exactement.
Alignée.
Exactement. Ouais. Moi, j'ai la volonté d'écrire le plus longtemps possible. Tant qu'il y a cette volonté, franchement, il n'y a rien qui... Il y a rien qui peut m'en empêcher, quoi. Même pas la misère. Bon, c'est chiant, hein. C'est dur, mais c'est pas triste. C'est ça la différence. C'est une vie dure, ouais. Je m'inflige des trucs difficiles, mais à aucun moment c'est triste. Il y a pas de tristesse là-dedans, quoi. C'est pour ça que c'est incompréhensible, parce que je pense que pour beaucoup de gens, vivre ce que je vis ou ce que j'ai vécu, ça serait vécu tristement. Moi, la question s'est pas posée, donc ça veut dire que j'étais sûr que de toute façon, je serais plus heureux. Voilà. Et de toute façon, dans ce monde tel que je l'ai traversé, là maintenant, j'ai 59 ans et j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de choses, quoi, de gens, de milieux, de pays. Dans ce monde, je vois pas comment j'aurais pu être plus riche, quoi, en restant heureux, quoi. Et vraiment, la littérature... Et je dirais même plutôt l'art, enfin la fabrication de l'art, parce que je suis pas un gros consommateur d'art. Je suis pas au théâtre, je suis pas. La fabrication de l'art, c'est un truc qui rend extrêmement heureux quand on a ce virus, quoi. Et donc qui fait supporter beaucoup de choses. C'est pour ça que le livre est, paraît-il, drôle, hein, comme tu l'as dit, comme on me le dit régulièrement. C'est que je pense que moi, j'ai jamais vécu le truc comme une tristesse. Je viens pas me plaindre d'une situation. Je raconte une anomalie. C'est quand même bizarre, effectivement, qu'un auteur, et je suis pas tout seul, hein, mais qu'un auteur signé dans une grande maison, comme ça, où on s'imagine qu'il habite au boulevard Saint-Germain, quoi, en gros. Les gens ne réalisent pas à quel point les auteurs sont précarisés. Là, il y a pas longtemps, un auteur m'a envoyé des vidéos des tutos pour voler dans les grands magasins. Voilà, on en est là, quoi. C'était bienveillant, hein. C'était bienveillant, lui. Là, je me dis, bon, ok, la littérature française qui rayonne dans le monde.
Une des images qui m'a marquée dans ton livre, c'est cette satisfaction de transformer le peu d'argent que tu gagnes, on est sur des sommes qui vont de 20 à 35 euros la demi-journée, en nourriture. Immédiatement, avec cet argent, tu vas acheter à manger des aliments qui donnent des forces, toujours pareil, hein, des sardines, des pois chiches, c'est ça que tu racontes. Hein, tu ménages vraiment ta monture.
Oui.
Mais tu dis, avant l'argent était sur mon compte et c'était quelque chose d'abstrait. Et là, voilà, ça transforme en nourriture. Alors tout ce que tu gagnes, tu le redépenses aussitôt pour te maintenir en vie.
Oui, il y a un rapport très très direct entre le travail et l'argent quand on est dans des travaux manuels que j'aimais bien, que je découvrais. Avec aussi cette notion de début, de fin, de travail accompli. La réussite est quand même extrêmement facile à obtenir. Hein. Descendre des gravats, bah, une fois qu'ils sont tous descendus, on a réussi. Alors qu'en photo ou en littérature, le plafond, c'est toujours inaccessible. Quoi. Il y a quelque chose de très rassurant comme ça que j'aimais bien, qui m'apaisait avec ce sentiment de, quand le travail était terminé, d'un petit temps de vacances que j'avais jamais ressenti vraiment. Parce que la photo, c'est quand même un métier intellectuel, puisqu'on fait pas que des commandes, on fait un travail personnel en permanence aussi. Et donc, on est toujours à l'affût, toujours sollicité. Et la littérature, c'est encore pire. Là, c'est tout vient nourrir le livre en cours. Et les premiers 20 euros qu'on me donne, ouais, je les ai dans la main et j'avais l'impression d'avoir trouvé par terre, quoi. Il y avait un côté comme ça, vous savez, cette petite joie quand on trouve une pièce. Il y a un truc enfantin que j'aimais beaucoup dans les petits boulots, c'était ça. Matérialisation, ouais. Je crains qu'on, il est question de supprimer l'argent liquide. Moi, ça me fait un peu peur. D'abord, je me dis, qu'est-ce que vont devenir tous les gens qui déclarent pas? Je pense que c'est pour lutter contre ça, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi? Si on interdit le cash, une immense partie de invisible de l'iceberg qui va faire surface, qui risque de faire chavirer l'ensemble de la société, quoi.
Il y a une joie du cash, c'est ce que tu dis.
Oui. Le pourboire, par exemple. Moi qui faisais des photos, enfin, des photos payées entre 300 et 6000 euros, quoi. Ça veut plus rien dire, en fait. Ça veut rien dire. L'argent veut rien dire dans ces cas-là. On sait juste que bon, bah, pour 6000, oui, on va y passer plus de temps et d'énergie, peut-être. Mais au fond, c'est très abstrait, quoi. Mais quand je fais un jardin pour 18 euros et que la cliente laisse 2 euros de pourboire, j'étais hyper content. On peut pas expliquer. C'est un truc, ça m'a rappelé comme quand j'étais petit, qu'on essayait d'avoir de l'argent de poche par tous les moyens, en lavant la voiture du voisin, des trucs comme ça. Il y a une joie comme ça.
Là, on est presque en octobre 2023. C'est quoi ta vie?
Ma vie, là, c'est beaucoup de promos, déjà, parce que le livre est sorti à la rentrée littéraire. Donc, il y a un regard particulier des journalistes, des libraires. C'est, dont j'ai peut-être un peu rêvé, et puis qui est fatigante quand même, mais c'est un déjeuner dans un grand restaurant avec un producteur de cinéma, des choses comme ça, quoi. Avec un taxi qui vous attend pour vous ramener.
C'est schizophrène.
C'est complètement bizarre, schizo, ouais.
Parce que financièrement, c'est toujours la même chose.
Financièrement, j'ai le RSA depuis 2020.
Ah, t'as fini par le demander?
Je l'ai demandé parce qu'on m'a dit, mais tu sais que t'y as le droit, quoi.
Je savais pas.
Et puis je pensais que c'était pas pour des gens comme moi que je pouvais me démerder, quoi. Je pensais que c'était plus des gens accidentés du travail. Donc je vis du RSA et de temps en temps, ma mère me demande de lui faire des courses et elle me dit, prends des trucs pour toi. Voilà. Ce qui est pas légal. C'est terrible à dire, mais on n'a pas le droit de faire ça. Mais ça me permet d'avoir de temps en temps, oui, un beefsteak. Sinon, bah, les petits boulots, j'ai arrêté de les faire pour la plateforme, qui était une association de gens qui récupèrent les déclassés, les gens qui ont fait des burn-out, enfin les nouveaux pauvres, quoi. Et donc ils les font travailler pour en les mettant en concurrence les uns par rapport aux autres, avec un algorithme qui gère ça. Mais en gros, on est obligé de descendre son salaire nous-mêmes. On descend nous-mêmes notre salaire par rapport aux autres.
Pour être compétitif.
Pour être compétitif et continuer à recevoir des propositions de travail. Si on descend pas et si on n'est pas choisi, au bout de 2 ou 3, on diminue. On nous propose plus de travail. Donc évidemment, on est pris à la gorge. Donc on se dévalue nous-mêmes. Comme la condition, c'était que ça passe par la plateforme, on peut jamais joindre le client en direct pour pas justement négocier du cash. Ils se sont dit, comme de toute façon, une fois qu'ils ont eu contact avec les personnes physiquement, ils échangent les ouvriers échangent leur numéro de téléphone et ils passent plus pour nous. On va faire autrement. On va faire payer un forfait aux ouvriers. Enfin, c'est même pas des ouvriers. On est manœuvre. On nous fait payer 100 euros par mois pour avoir accès au site, mais on a le droit d'être en contact avec le client. Et l'avantage, et c'est ce qui nous explique avec un petit clin d'œil dans la voix, c'est vous pouvez être payé en liquide. Mmh, donc, ne rien déclarer.
Ouais, il vous encourage à faire du black.
Exactement. Et là, ça m'a vraiment choqué. Ouais, quoi. Là, ouais. J'ai commencé à... Bah, en fait, j'ai refusé de payer la formule Zen.
100 euros.
C'est
énorme.
J'en gagnais 190 par mois.
C'est énorme.
Donc, il fallait plus de la moitié. Il fallait que je verse à la plateforme. C'était impossible.
C'est délirant. Parce qu'on s'adresse quand même à des gens qui...
Qui n'ont pas le choix.
Qui louent leur bras pour...
Ouais.
Wow.
Parce que le discours officiel, c'est mettre du beurre dans les épinards des retraités, des étudiants, des gens inactifs. Mais non. C'est essentiellement... Alors, pas que des sans-papiers, bien sûr, mais soit des artisans pour qui ça fonctionne pas très bien, et beaucoup de gens tout simplement pauvres, en fait. Voilà.
Ta vie sociale, elle est devenue quoi ?
Avant ce livre, personne ne se doutait, parce que je ne le disais pas, j'avais un peu honte d'être dans cette misère. Il y a toujours moyen de ruser, continuer de s'habiller bien, arriver à des dîners avec un vin, bon, on fait ce qu'on peut en espérant que ça ne soit pas remarqué, que c'est un vin moins cher que ce que les autres achètent.
Ah, t'arrives, tu te diriges direct vers le frigo.
Ah, je l'ai fait, ça.
Tu le ranges.
Ah, je l'ai fait.
Comme ça, personne ne voit que tu as ramené.
Ouais, je l'ai fait et c'est horrible parce que c'était un anniversaire, quoi. Je suis arrivé avec un. Je sais plus ce que c'était. C'était
Baron de l'Estaque.
Un cidre. Non, un cidre avec un bouchon. Et donc, il a dit « Ah, qui est-ce qui a porté le cidre ?» C'était horrible. Je dis « C'est moi. » Bon, on gère tout ça. Ça va, on le gère. Maintenant que le livre est sorti et que les amis vont le lire, ils vont comprendre peut-être. Mais je n'ai pas perdu mes amis. J'ai réussi à tenir à peu près.
Est-ce que certains t'ont dit, mais Franck, fallait nous le dire?
Ah oui.
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés des nues en lisant ton livre?
Oui, oui, il y a des gens qui ont dit, oh, mais j'ai honte de pas m'être rendu compte. Pourtant, tu l'as dit à un moment, parce qu'à un moment, j'ai été serveur, en extra. Et ils l'ont su. J'ai même été reconnu le café où je travaillais. J'étais reconnu par un lecteur, quoi. Donc ça, c'est super bizarre. Alors, j'ai une amie qui m'avait proposé de l'argent, j'avais refusé. Mais la plupart des gens ont un petit sentiment de culpabilité que j'essaye de désamorcer. Je leur dis tous que non, j'avais besoin qu'ils restent normaux, quoi. Rien de pire quand on est pauvre que de sentir la pitié, de sentir que le langage, le discours change en face. En fait, ça me maintenait dans une illusion d'être encore... pas totalement déclassé, quand les copains me disaient « Bon, on va au sport d'hiver avec machin, t'en es, quoi ?» Je dis oh, « Non, moi, tu sais, j'aime pas trop le ski, alors que j'adore ça, quoi. » Enterrement de vie de garçon, typiquement. Alors, on a un programme super. Alors là, on se fait un resto le midi. Et le soir, c'est un chef qui va venir cuisiner pour nous. Et ça va, il nous fait un prix. Et là, ouais, non, mais j'aime pas les enterrements de vie de garçon.
Ouais,
voilà, on ruse.
Mais maintenant, ce livre te sert aussi à rétablir la vérité, parce que si ça fait des années que tu fais ça, j'imagine que ben là, tu vas avoir un petit confort à dire non, à dire écoute, je peux pas, lis mon livre et tu vas comprendre.
Oui, ça va être peut-être plus facile. Ouais.
Tu as trouvé un sujet pour ce livre, un sujet extraordinaire, qui est celui qui est l'histoire d'un déclassement, l'histoire. Voilà, d'un homme qui décide de vivre de cette façon-là, qui rencontre des devoirs dans les romans, etc. Donc, tu as un sujet. Mais finalement, ton livre, il raconte quoi ? Si tu devais le définir en quelques mots, il raconte quoi ? Il raconte l'histoire d'une motivation que tu ne veux pas lâcher. Il raconte la pauvreté.
Le résumé le plus court, est, je pense que c'est le prix de la liberté. Quoi. Combien ça coûte de faire ce qu'on veut ? Combien coûte la liberté de donner corps à la volonté qu'on a au fond de soi, une volonté farouche de faire quelque chose. Bah ça coûte très cher, c'est hors de prix. Comment on vit une passion et quel prix ça a ? C'est ça le sujet du livre, c'est le prix.
Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir.
Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.